Tout un monde,
Marie-Hélène Freixé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour à tous, destination Séoul, la vie brillonnante capitale de la Corée du Sud, sous le regard singulier, tendre et lucide de la photographe globe-trotteuse Françoise Huguier. Séoul, étrange ville de l'hypermodernité, cultive de manière obsessionnelle le paraître, la surface, et semble n'exister que par écran interposé. Elle a fait en 30 ans le grand écart vers l'immatériel et y a mis, dirait-on, les bouchées doubles. Chacun de ces citadins, toutes générations confondues, semble investir une énergie folle à s'y fabriquer un look, s'inventer un visage parfait, notamment grâce à la chirurgie esthétique dont c'est la capitale mondiale. Véritable empire du virtuel et des images, Séoul ne pouvait que fasciner une femme d'image, une photographe qui a passé un demi-siècle à la rencontre des autres, plus particulièrement en Asie, mais aussi en Afrique, dans le Grand Nord russe, et même, éclectisme oblige, dans les coulisses de la mode. Bonjour Françoise Huguier.
Bonjour.
Alors c'est le dernier en date de vos grands reportages, de vos longs reportages, puisque vous n'êtes pas une photographe qui part avec le voyage prépayé, faire 3 jours de prise de vue et qui sort 15 pages derrière ça.
C'est
pas
faire.
Votre genre.
Je sais pas faire, surtout. Donc effectivement, j'ai besoin de m'imprégner et de rester longtemps dans les endroits. D'abord, j'adore ça parce que quand je pars, je me dis, ben voilà, je vais aller m'installer à Séoul. Ou m'installer ailleurs. Et Séoul, ça a été un retour, parce qu'en fait, j'y avais été en 82. Et là, à l'époque, c'était de l'argentique, mais là, j'ai fait aussi de l'argentique. Et en 82, c'était quand même dictature encore, couvre-feu. Et c'était une ville complètement en construction. La cathédrale que j'ai revisitée, là, j'ai même des photos où c'est un espèce de squelette, comme ça. Et j'ai eu envie d'y retourner pour voir ce qui se passait. Et donc, quand je suis revenue, je n'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu du tout. Hein.
À propos de la cathédrale, d'ailleurs, on apprend, notamment dans le livre, magnifique livre, donc, où il y a des textes de Patrick Morus, que l'importance du christianisme est étonnante en Corée.
C'est énorme.
Qu'on croyait un pays bouddhique,
bouddhiste. Alors, c'est un pays confucianiste, chamaniste, très très important, et chrétien. Et alors, toutes les familles que j'ai photographiées, tous les dimanches, ils vont à l'église. Et la nuit, quand on se balade dans la nuit, c'est extraordinaire parce qu'il y a des grandes croix rouges comme ça, en néon. Alors les croix rouges, c'est le protestantisme, et les croix blanches, il y en a moins, c'est le catholicisme. Mais effectivement, il y a des bouddhistes parce qu'il y a des monastères absolument extraordinaires. Mais c'est surtout... Alors, moi, je pense que c'est avec l'arrivée des Américains aussi. Hein. Donc, mais c'est énorme, énorme. Et dans les familles, sur les papiers peints, il y a des croix partout. J'ai même vu, dans une famille, il y avait le petit Jésus, Saint Joseph et la Vierge, à côté de la machine à faire l'eau chaude, qui parle. Et moi, à chaque fois, j'étais quand même très étonnée, parce que les croix, on n'en voit plus, c'était dans la chambre de ma grand-mère. Hein. Et donc, vous en verrez, parce que j'en mets à l'exposition là, du Carré Baudouin le 6 octobre. Et parce que là, j'en ai récolté quelques-uns pour pouvoir les mettre. Et c'est énorme, hein, c'est énorme.
Alors, ce qui a attiré beaucoup votre regard, c'est justement ce culte de l'image, du paraître, que semblent développer les habitants de Séoul. Et d'ailleurs, en regardant ça, on se dit, mais peut-être que c'est Séoul seulement, et que le reste de la Corée reste provincial, paysan.
Il y a des grandes villes, hein, comme Busan, dans le sud, c'est pareil, hein, c'est devenu comme ça. Par contre, j'étais à la campagne. Alors, la campagne, l'architecture coréenne traditionnelle est magnifique. Et là, c'est en voie de disparition. Et souvent, dans les fermes, c'est les vieux qui restent. Les enfants sont tous partis à Séoul. Et moi, la campagne que j'avais photographiée en 82, il n'y avait pas un fil électrique, là, ni d'autoroute. Et là, il y a tout ce qu'il faut.
Alors, ce que dit Patrick Morus, qui a écrit un texte absolument magnifique pour accompagner vos photos dans le catalogue donc, qui est publié chez Actes Sud, il dit que, en fait, ce grand écart fait que la Corée est allée même un cran plus loin que tout le monde dans l'hypermodernité, et notamment par rapport au Japon.
C'est évident, parce que moi qui ai travaillé en Asie du Sud-Est, qui est en train aussi d'exposer, et en Chine, bon, j'y avais été pas récemment, mais le Japon, où j'ai été souvent, effectivement, c'est très très net. C'est très net. Rien que le métro, alors eux, ils appellent, le métro, ils l'appellent sous terre. En coréen, c'est sous terre. Alors le métro, moi, j'étais fasciné. Bon, d'abord, il n'y a plus de papier, c'est que des écrans. En plus, comme le métro est venu, la première ligne est venue à peu près au moment des Jeux Olympiques. Alors on vous explique comment bien se tenir. Parce qu'au départ, moi c'est Patrick Morus qui me l'a dit, parce qu'à l'époque il connaissait, et qui m'a dit, mais au début, ils crachaient dans le métro, ils faisaient pipi dans le métro. Et donc il a fallu les éduquer. Parce que c'est la Corée du Sud, c'était surtout des fermes, hein, contrairement à la Corée du Nord. Donc il a fallu les éduquer. Alors il en reste, beaucoup de petits films comme ça. Alors c'est toujours genre manga, on vous dit combien vous tenir. Et là, moi j'étais sidérée, parce qu'il y en avait un qui est disant qu'il fallait pas photographier sous les jupes des femmes. Ah bon. Et alors en fait, avec le smartphone, c'est pratique, il suffit qu'on soit assis à côté de la femme, on baisse le smartphone et hop, on photographie la culotte. Et moi j'étais sidérée. On vous apprend aussi à tenir la rampe. Et ça m'a fasciné. Plus les écrans de publicité, et puis dans le métro, beaucoup avant-après. Là, ça, c'est la chirurgie esthétique, avant-après. Il y a même un endroit où, parce que la chirurgie esthétique, mais c'est aussi, il faut avoir la vie-fesse. La vie-fesse, c'est le menton en V, comme nous, on l'a.
Ah oui, oui. Ouais.
Donc, le menton en V, alors il y a même un endroit, il y a un miroir, où il y a des petits pointillés. Et les petits pointillés, c'est le menton en V. Donc il faut que votre visage rentre dans le pointillé. Alors la plupart du temps, ça rentre pas dans le pointillé. Et la dernière mode, alors ça va sidérer. La dernière mode, c'est d'avoir un petit bourrelet sous les yeux. Parce que nous, on a un petit bourrelet sous les yeux.
Et on enlève la paupière asiatique ou pas?
Ah oui, ça, alors les yeux, on commence par ça. Mais yeux, maintenant, c'est...
Donc la deuxième paupière est retirée automatiquement. Alors.
Oui, enfin, on agrandit les yeux.
Ouais. Et ce qui fait que d'ailleurs dans les photos, on le voit bien dans vos photos, tout le monde a la même tête, voilà. Le même visage.
Moi, je me suis aperçu en allant en me baladant dans la rue jour et nuit, parce que la plupart du temps, c'est ouvert jusqu'à 11h minuit, hein, les boutiques. Donc, je voyais la même fille à chaque fois et le même garçon. Parce qu'au moment du bac, les parents payent la chirurgie esthétique. Mais je dois dire, alors ça, j'ai appris ça par Valérie Gélézeau, qui est chercheuse à hautes études, et qui m'a dit, mais tu sais, c'est une vraie tradition coréenne. Il y a toujours quelque chose qui reste. Hein. Et parce que avant, il fallait, avant la chirurgie esthétique, du temps des rois, il fallait avoir le physique qu'il fallait pour trouver un mari, etc. Donc avant, c'était le maquillage. Et maintenant, c'est facile, la chirurgie esthétique. Et moi, j'étais fascinée parce que parfois, c'est des clones, hein.
Parfois, on n'arrive pas à les reconnaître. Quand vous revenez, vous ne savez qui est qui.
Et je vais même rajouter quelque chose. À un moment, il y a une photo d'une fille qui n'a pas été retouchée, que j'ai photographiée chez elle. Et tout le monde me disait, mais elle a un visage d'il y a 30 ans. Ou alors c'est une Nord-Coréenne. Ben non, elle ne s'est pas fait refaire. Elle est sublime. Elle est sublime.
Don't leave me now.
Séoul sous le regard de la photographe Françoise Huguier. Françoise Huguier, ça sont vos copines qu'on entend, les filles du girls band La Boom.
Oui.
Grande rencontre.
Ben, c'est tout à fait par hasard parce que j'ai trouvé leur disque chez un libraire. J'ai dit La Boom, c'est pas possible. Alors la vendeuse m'a dit si, c'est le film français. Bon, d'accord. Et puis le disque s'appelait Petit Macaron.
En français.
En français. Et évidemment, c'est financé par une clinique de chirurgie esthétique. Donc tout va bien là. Et donc je n'ai eu de cesse que les photographier. Et donc j'ai eu un mal fou, hein, parce que toutes les majors qui s'occupent de ces groupes, elles gèrent tout.
Oui, c'est ça.
Elles gèrent même le.
L'image est sous contrôle.
L'image
total.
Est sous contrôle. Donc c'est très très difficile. Donc au bout de. J'ai insisté, et au bout de 3 semaines, on m'a dit, vous pouvez les rencontrer. Bon, j'ai réussi. Après, j'ai dit, je veux les photographier. On m'a dit, oui. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Je me suis inspirée de Sofia Coppola. D'où les converses, d'où les petits macarons, bien sûr. Et alors, j'ai une chance folle. Et j'ai dit, ben, je veux un studio qui ressemble à Versailles. Alors on a fait Titi Tata là, sur le smartphone. Et avec l'interprète, et on a trouvé un studio qui ressemble à Versailles.
Et là, elles ont adoré.
Et alors, j'aurais appris à lever le petit doigt quand on prend la tasse de thé. J'aurais appris qui était Marie-Antoinette, quoi, voilà.
Mais c'est quoi, c'est Barbie à Versailles, un petit peu?
C'est ça.
Hein?
C'est
parce
ça.
Que, on se teint les cheveux, beaucoup.
C'est
encore, c'est un déni des traits asiatiques. Oui. Vous disiez tout à l'heure, bon, on enlève les yeux bridés.
Ah non, mais on teint les cheveux aussi.
Et ils ont tous les cheveux blonds.
Blond, roux, violet. Vous allez voir violet. Et donc, il y a toutes les couleurs. Et donc, c'est très important.
Et ça, ça touche toutes les générations. On voit apparaître donc dans votre travail photo aussi les plus vieux. Et les plus vieux également sont dans le paraître, sont très préoccupés de ça. Et travaillent beaucoup leur corps, leurs attitudes, leurs vêtements.
Tout à fait, c'est dans le paraître. Mais ça, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est dans la grande tradition. Et alors, les vieux, aussi bien les vieux et les vieilles, elles, alors il y a une différence, c'est-à-dire que les jeunes, eux, ont les cheveux raides, un peu comme ici. Hein. Tandis que les femmes plus âgées, elles, c'est la permanente. Elles sont toutes permanentées. Et évidemment, décolorées, refaites, etc. Hein, ça se voit. Et même les hommes, hein, c'est très important. Puis le paraître aussi, le vêtement et tout, c'est très important.
Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette obsession du paraître, des images, ce monde virtuel? Il y a un mal-être, qu'est-ce qu'il y a d'après vous?
Alors, quand j'étais dans l'école à tech, où j'ai eu du mal à photographier... Donc
l'école à tech?
Alors l'école à tech, c'est des discothèques pour vieux, 74...
Quoi, on boit du Coca-Cola, c'est ça?
Alors au départ, c'était pour ça. Et donc, c'est pas cher pour les vieux. Ils viennent danser toute la journée de 11h du matin à 6h du soir.
Parce qu'ils sont à la retraite.
Oui, ils ont pu payer une retraite. Attention.
C'est le balajo voilà, 24h sur 24.
Exactement, c'est le balajo. Et donc, eux, moi, j'ai fait la connaissance avec qui je suis restée très amie, d'un vieux monsieur qui m'a raconté sa vie. C'est eux qui ont construit la Corée. Hein. C'est pas les jeunes, hein, c'est eux. Donc, ça a été très dur. Donc, il m'a raconté sa vie. Et je dis, mais comment ça se... Parce que lui, il change de vêtements tous les jours, quand il vient, de costard, de chemise et tout. Et il m'a dit, parce que quand on est riche, on n'a pas besoin de s'habiller. Quand on est pauvre, on vous considère quand vous êtes... Et ça, ça a été une leçon pour moi. C'est exactement ça.
La pauvreté dans ce pays, on voit quelques images, mais vous nous dites qu'elle est vraiment taboue. Elle est ostracisée.
Complètement. On ne la voit pas, à part quelques SDF à la gare de Séoul, un peu dans le métro. Et moi, je me suis dit, mais il y a des pauvres quand même, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Si vous n'avez pas payé pour la retraite, et ben vous faites quoi? Vous avez perdu votre boulot. Et bien, c'est comme ça que j'ai découvert un bidonville. Alors, dans le livre, je ne l'ai pas mis, mais il sera à l'exposition du Carré Baudouin. Et donc, il y a 2 bidonvilles énormes, un au nord, un au sud, extrêmement peuplés, mais un vrai. Hein, c'est des maisons en carton et en moquette. Hein, un vrai bidonville. Et ça, c'est laissé pour compte. Et quand vous parliez d'angoisse, moi, je m'en suis aperçu quand je suis arrivé dans les familles. Car si on perd son boulot, donc on ne peut plus payer les études des enfants qui sont très très chères. On n'a plus la sécurité sociale, donc on ne peut plus soigner. On ne peut plus avoir de voiture, on ne peut plus avoir d'appartement. Ils s'endettent énormément, les Coréens. Donc c'est quand même, on sent une angoisse, parce qu'il faut absolument tenir.
Il y a des psys ?
Il y en a.
Beaucoup ?
Écoutez, moi, j'en ai entendu parler, oui, il y en a pas mal, hein. J'en ai entendu parler parce que quand j'ai fait l'apprentissage de la mort, la séance...
Ah oui, là, c'est incroyable, ça. On vous apprend à être mort, c'est-à-dire on vous met dans un cercueil.
On vous met dans un cercueil pendant un quart d'heure, donc on vous apprend à mourir. Et donc, là, il y avait un couple qui était là, et je leur dis, mais comment ça se fait que vous faites ça? Parce qu'on est allé voir un psychologue qui nous a dit que comme on avait des problèmes de couple, il fallait faire ça. Bon, et là, je leur dis, mais il y a beaucoup de psychologues, il y en a pas mal, hein.
Mais qu'est-ce que c'est une humanité quand même très, très formatée? Qu'est-ce qui se passe en réalité?
Ben, le confucianisme, c'est le confucianisme, la tradition, c'est quand même, il faut écouter.
Donc c'est un autre formatage alors?
C'est un formatage. Alors après, avec le chamanisme, effectivement, c'est les esprits, les fantômes. Mais le confucianisme, c'est vraiment quelque chose de très... c'est le maître. Donc il faut suivre le maître. Il faut obéir. Donc effectivement, là... Ben, après la guerre, ça a quand même été des dictatures, hein. Il a fallu construire la Corée à toute vitesse, et ça a été quand même très très violent. Et là, donc du coup, et puis c'est un pays extrêmement nationaliste. Il faut pas oublier qu'il y a la Chine à côté, le Japon, qui a colonisé pendant 35 ans, et la Corée du Nord. Donc il faut être les meilleurs. Et ça, ça les tient.
Le rapport de compétitivité avec le Japon continue d'exister. Oui. Japon, empire des signes, et Corée, empire des images.
Des images, tout à fait. Oui. Et puis, c'est toujours la haine avec le Japon. Hein. C'est toujours... Enfin, on retrouve des choses, bien sûr, parce que ça a laissé des traces. Et la Chine, qui est en pleine compétition avec eux, parce que même au niveau des industries, c'est en pleine compétition. Donc, et la Corée du Nord, c'est un peu tabou. Les jeunes... La réunification, quand je leur demandais, ils disaient, oh, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais les vieux sont assez traumatisés. Et la réunification, elle n'est pas pour aujourd'hui. Mais ils ont beaucoup de relations entre eux. Il ne faut pas le croire, ici, on ne parle que des missiles. Mais,
et on parle du mur, on a l'impression que c'est totalement étanche entre les Corées du Nord et Corée du Sud.
C'est pas étanche, la Corée du Sud a toute une partie industrielle qui est en Corée du Nord, qui est près de la frontière. Et c'est les ouvriers de la Corée du Nord qui viennent travailler, donc les grosses boîtes comme Samsung, etc. Donc c'est pas si voilà.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
Les allers-retours de Françoise Huguier, photographe, aujourd'hui, dans Tout un monde, on sort de l'univers coréen. Françoise Huguier, pour regarder un moment du côté du Mali, puisque au Mali, vous avez beaucoup travaillé, on va en dire un mot, mais au fond, toujours avec la même méthode qui est la vôtre, la même approche, lente, pour contacter les gens, pour créer le lien. Et j'aimerais qu'on parle de ça maintenant, vous avez travaillé beaucoup sur les femmes d'Afrique de l'Ouest. Quelle est votre pratique? Comment arrivez-vous à obtenir les images que vous voulez, puisque tout de même, c'est le but?
Quand je suis arrivée au Mali les premières fois, par exemple, quand on mangeait, moi, je mangeais avec les femmes. Et les hommes mangeaient à côté. Et donc, j'étais que du côté... En Inde, ça m'est arrivé aussi, j'étais que du côté des femmes. Et en fait... Moi, je raconte ma vie. Bon, voilà. J'invente un petit peu, parfois. Et elle, du coup, moi, je suis une femme. Hein. Et elle me raconte la vie. Alors, au début, j'étais plus jeune. Donc, ça marchait aussi. Donc, on se racontait notre vie. Elle me racontait comment être mère, comment même leur mari, comment elle s'était mariée, comment la deuxième femme, etc. Finalement, je m'aperçois en allant chez les gens, parce que finalement, la famille voisine, hein, c'est comme dans tous les endroits où j'ai été, la famille voisine, ils connaissent par cœur toute l'histoire. Moi, j'arrive, je connais pas. Donc, on me raconte. Donc, ça fait plaisir aux gens de raconter leur vie. Enfin, il y a quelqu'un qui va m'écouter. Donc, moi, je les écoute. Et pendant que je les écoute, j'ai un œil, j'ai les yeux qui traînent. Partout.
Donc, c'est quand même intéressé, cette attention que vous portez.
Évidemment. Mais nous, les photographes, nous sommes très intéressés. Évidemment, c'est intéressé. Moi, quand je leur demande de me raconter leur vie, c'est intéressé parce que je regarde tout. Et il y a un truc, quelque chose que je faisais aussi, moi, au Mali, mais dans d'autres pays, je leur disais, je voudrais aller aux toilettes. C'est formidable, les toilettes. Parce que souvent, il y a les photos de famille, etc. Vous avez des indications, qu'est-ce qu'on lit, les journaux qu'on lit, etc.
Il y a des photos des toilettes coréennes, d'ailleurs, dans votre dernière expo. C'est étonnant, des toilettes avec une forme de nounours.
Oui, c'est les toilettes du métro. C'est pour les enfants. Ah oui, tout est prévu. Et donc, c'est un peu ça, ma technique. Donc, je passe du temps avec les gens, quand même. Et mon regard traîne, et puis tout d'un coup, innocemment, je dis « Oh ben, je peux aller dans votre salle de bain ?»« Ben oui, pourquoi pas ?» Et par exemple, j'étais dans une famille, et tout d'un coup, la grand-mère a dit « Ah, je vais me faire masser. » Et je me suis dit « C'est pas vrai, ils vont me dire « Non, non, non. » Eh ben oui. Donc là, j'ai installé mon trépied, j'ai pris toute la séance de massage.
Alors ça, c'est votre méthode, c'est-à-dire c'est la lenteur,
oui.
C'est créer de l'empathie, voilà, créer de l'échange, et commencer par dire qui l'on est.
Qui l'on est, c'est très important. C'est-à-dire se présenter. Alors en Corée, c'était très important parce qu'on est un étranger. Dans la rue, même si dans la rue, à part la famille, bon, le petit cercle de la famille, mais même quelqu'un qui fait part la famille, automatiquement, c'est un étranger. Donc quand ils acceptent, ce qui est très rare, qu'on rentre chez eux, on est encore l'étranger. Donc, il faut que j'explique que je suis un étranger, mais pas trop dangereux.
Alors, vous êtes pas mal intéressé aux femmes coréennes, et vous nous en dites des choses qui sont assez surprenantes, qui en tout cas vont surprendre des féministes. Vous photographiez un certain nombre de femmes qui sont des femmes au foyer, et très contentes de l'être, et qui considèrent ça comme finalement un plus, parce que quoi ?
Une liberté.
Ça va les libérer de, notamment, alors de la fameuse belle-mère.
La fameuse belle-mère, ça c'est formidable, parce que ça libère de la belle-mère, mais ça libère de la belle-mère, sauf si le mari est le premier fils. Alors l'idéal, c'est que la belle-mère, on essaye de trouver un appartement qui soit loin, et surtout dans un endroit où c'est imprononçable, non ? Donc la belle-mère, elle est incapable de, surtout à l'occidental, elle est incapable de prononcer le nom de la rue ou surtout de l'immeuble. Alors ça, c'est très efficace. Mais autrement, il faut être effectivement loin de la belle-mère. Elle a toute liberté, mais il faut savoir aussi que la plupart du temps, c'est souvent des femmes qui ont fait les mêmes études que le mari. Mais ce qui est intéressant, c'est que le salaire, deux tiers du salaire est versé à la femme. Et c'est pas une liberté, ça ?
Directement ?
Directement. Et le reste au mari pour qu'il aille le soir au restaurant et tout ça. Et donc c'est la femme qui gère tout. Donc elle a la liberté de tout gérer. Le mari s'en mêle pas. Donc l'éducation des enfants, les loisirs des enfants. Non, elle gère tout, 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 tout. Donc c'est une espèce de liberté, quoi.
Une société qui finalement vous apparaît vivable, invivable, terrifiante.
C'est très confortable. Parce que c'est vrai que, par exemple, jour et nuit, on peut se promener, il n'y a aucun problème, hein, jusqu'à 2-3 heures du matin. C'est un pays aussi où on peut laisser son appareil photo, il n'y a aucun problème.
Mais quelque part, c'est désespérant, je trouve, quand on
voit
vos images.
Moi, je me suis rendu compte dans les familles, l'angoisse. Parce que tout est bien carré. Singapour est comme ça, tout est carré, quoi. Moi, j'y vivrai pas.
Françoise Huguier, cette musique qu'on entend est aussi une allusion au périple que vous aviez fait dans le nord de la Sibérie. Ceci pour dire que votre vie de photographe a été extraordinairement vagabonde et éclectique, puisque vous avez aussi fait de la mode. Mais on a quand même le sentiment que votre éternel retour se fait vers l'Asie. C'est quand même le continent. D'abord, votre enfance est en Asie.
J'ai été élevée en Asie. Alors, je voulais dire que je suis moins... quand j'ai été en Afrique, il y a un vrai fossé. Entre quand j'étais au Mali ou dans la traversée de l'Afrique, il y a un vrai fossé. Moi, je sens le fossé. Par contre, en Asie, je sens moins le fossé. Même en Corée.
Vous êtes encore un peu chez vous.
Je suis pas chez moi, mais...
Vous avez les codes.
J'ai les codes, oui. J'ai les codes. Ça me choque pas du tout, quoi.
Françoise Huguier, on peut voir votre travail en ce moment à la galerie Polka, Virtual Séoul. C'est jusqu'au 29 octobre. Hein. C'est un peu une mise en bouche.
Une mise en bouche
pour l'exposition qui va avoir lieu au Carré de Baudouin, qui va être alors sur une beaucoup plus grande surface à partir du 7 octobre et jusqu'au 31 décembre. Et puis il y a le livre qui va avec, un livre extrêmement soigné avec des textes, je le redis, vraiment excellents de Patrick Moreau. C'est-à-dire on fait une plongée dans la Corée à travers ces deux regards qui ne vont pas d'ailleurs toujours exactement dans le même sens. Hein, vous divergez parfois.
C'est-à-dire que moi, je raconte mes traversées. C'est un espèce de journal comme ça à la Candide.
Et lui, il a l'expérience.
Et en plus, il y va.
Merci Françoise Huguier. Alors, puisqu'on est très photo aujourd'hui, je voudrais dire un mot d'une expo qui vient d'ouvrir au bal, qui est absolument formidable, sur un mouvement de photographes japonais qui s'appelle Provoke. Je suis sûre que vous les connaissez, les années 60-75, mouvement engagé. Dire aussi qu'il y a le très bon festival Photoreporter qui vient d'ouvrir aujourd'hui même à Saint-Brieuc. Et puis aussi vous inviter à acheter en librairie, puisque on trouve ça depuis quelques jours. Cette revue que nous aimons beaucoup ici à Tout un Monde qui s'appelle Long Cours, une belle revue trimestrielle qui renaît, dont le thème est cette fois-ci l'épaule, et une revue qui fait toute sa place au dessin et à la photo. Voilà, et c'est avec la compositrice japonaise Hiromi que se termine Tout un Monde, le magazine des cultures, à la prise de son Pierre Monteil, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un Monde, c'est chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, une émission proposée par Marie-Hélène Freissey. Consultez, n'hésitez pas, notre page Tout un Monde sur le site franceculture.fr, il est très nourri. Et c'est sur France Culture que vous avez maintenant rendez-vous avec Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.